D'Haïti, c'est le témoignage que je retiens de ces dernières semaines. Cette habitante de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, entendue sur RFI, et qui, sous couvert d'anonymat, tant elle craint pour sa sécurité, raconte les barricades, les pillages, les tirs, et puis le silence effrayant.
C'est tantôt des tirs, tantôt un silence, le même silence effrayant. Mais il y a surtout les pillages qui continuent à se faire dans la zone. Ils pillent des banques communautaires, ils ont pillé des pharmacies. Surtout la nuit, ils font ça, ils tirent beaucoup à ce moment-là.
Chaos est le mot qui revient le plus souvent dans les médias pour décrire la situation de ce territoire de près de 28 000 km² niché au cœur des Caraïbes. En octobre 2023, les Nations Unies donnaient leur feu vert pour l'envoi d'une force multinationale. Elle tarde. Elle se fera, disent les États-Unis, sous l'égide du Kenya. Mais pour y faire quoi ? Pour m'éclairer sur la situation, j'ai fait appel à Marie-Andrée Bélange, qui est la correspondante de RFI à Port-au-Prince. Haïti, qui dans la nuit du 7 juillet 2021, à Pétionville, dans la banlieue ouest de Port-au-Prince, voyait son président Jovenel Moïse assassiné. L'enquête est toujours en cours. Le mois suivant, un nouveau séisme frappait le sud-ouest de l'île, suivi d'une tempête tropicale. Réminiscence du souvenir douloureux du tremblement de terre qui, en 2010, a coûté la vie à quelque 300 000 personnes. Aujourd'hui, Haïti figure parmi les pays les plus pauvres du monde. L'État ne fonctionne plus, ou presque, et les gangs armés terrorisent la population. L'état d'urgence a été décrété jusqu'au mois d'avril. Bonjour Marie-Andrée.
Bonjour Alexandra, merci pour l'invitation.
Nous sommes le 11 mars, il est midi et demi chez toi à Port-au-Prince. La situation dans la capitale haïtienne à l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est laquelle ? Est-ce que ce témoignage que l'on vient d'entendre, il est toujours d'actualité ?
Alors, les Haïtiens se sont réveillés avec le soleil, le chant des coqs, on va dire, mais toujours avec un sentiment d'inquiétude. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans quelques heures ou demain, par exemple. Actuellement, je suis à Vision 2000, c'est une station de radio haïtienne au cœur de Port-au-Prince. Aux alentours de la radio, il y a quelques marchands de fruits, de nourriture, des chauffeurs de taxi-moto. Il y a aussi un grand supermarché de la zone, je vois qu'il fonctionne. En revanche, les banques, par exemple, ne fonctionnent pas. Là, en ce moment, j'entends le klaxon des bus et des taxis. Ils ne sont pas beaucoup dans les rues. Je ne remarque pas d'écoliers. Les portes de certains bureaux publics restent fermées. Parfois, on entend des tirs dans certains quartiers. Certaines routes restent bloquées. La seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de monde dans les rues. Mais en fait, la situation ne se stabilise pas, mais les gens osent quand même sortir de chez eux. En fait, bon, certains d'entre eux n'ont pas le choix. Pour les commerçants surtout, ils n'ont pas le choix, ils osent quand même sortir.
Marie-Andrée le disait, on ne sait jamais ce qui se passera le lendemain. Quelques heures après notre enregistrement, le Premier ministre, Ariel Henry, a présenté sa démission. Aucun sacrifice, a-t-il dit, n'est trop grand pour Haïti. Il a appelé la population à garder son calme. Toi, là, tu travailles, évidemment, tu es journaliste, tu réponds à mes questions, mais est-ce que, d'une manière globale, les gens vont au travail, les enfants vont à l'école ?
Les écoles ne fonctionnent pas depuis plus d'une semaine, depuis les assauts répétés des bandits contre des bâtiments de police. Et les gens ne vont pas au travail parce que les routes sont bloquées, ils ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, quelqu'un qui habite au nord de la capitale, c'est difficile pour cette personne de se rendre au travail, par exemple au centre-ville. Il n'y a pratiquement pas de transport en commun, les routes sont barricadées. À Port-au-Prince, certains bureaux gardent leurs portes fermées, tout simplement.
La jeune femme qui parlait en introduction, elle l'a fait sous couvert d'anonymat. Est-ce que parler, raconter ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est prendre un risque pour sa vie ?
Pour certains Haïtiens, c'en est un, surtout ceux qui habitent les zones contrôlées par des gangs. S'exprimer, c'est pour eux dénoncer, attirer l'attention sur les exactions des bandits. Et selon eux, cela pourrait engendrer des représailles. Donc, les gens dénoncent à voix basse, je dirais, ce qui se passe dans le pays. Alors, c'est difficile de faire parler les gens parce que les gens ne font pas confiance aux journalistes. Donc, ils ne veulent pas que des bandits armés les entendent. Donc, sur le terrain, parfois, je dois passer une trentaine de minutes pour m'entretenir avec un interlocuteur, le mettre en confiance afin de recueillir des témoignages. Et parfois, ils le font, mais sous couvert d'anonymat. Personne n'est épargné. On peut enlever n'importe qui.
Ces gangs, concrètement, Marie-André, ils opèrent comment?
Alors, ils opèrent, on va dire, de jour comme de nuit. Ils n'ont pas d'heure pour opérer. Ils enlèvent des gens et au cours de la nuit, de la journée, ils peuvent s'introduire chez quelqu'un pour enlever des gens. Les bandits sont parfois remarqués sur les routes. Ils détournent des camions de marchandises. Donc, c'est une situation difficile.
La situation à Port-au-Prince, qui est donc la capitale, est-ce que c'est la même que dans tout le reste du pays? Là, on comprend que c'est difficile à Port-au-Prince, mais est-ce que ça vaut pour tous les territoires?
Dans certaines régions d'Haïti, c'est presque la même situation. Par exemple, à Jérémie, c'est une région sud-ouest d'Haïti où j'effectue récemment une visite. Donc, c'était en septembre 2023. On va dire que c'est l'une des zones à forte productivité agricole d'Haïti. Certains produits d'ailleurs consommés dans la capitale haïtienne proviennent de Jérémie. Ces derniers temps, les commerçants ne peuvent plus venir à Port-au-Prince, par exemple, pour écouler leurs marchandises à cause du blocage des routes. Et quand il y a cette situation, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui subissent le contre-coup de cette situation. Et c'est le cas, par exemple, dans d'autres zones d'Haïti. Il y a aussi, par exemple, le sud du pays où il y a beaucoup de commerçants qui ne peuvent plus venir à Port-au-Prince pour écouler leurs marchandises. Il y a aussi dans le plateau central, c'est difficile de se rendre dans le département du centre parce que pour se rendre dans le département du centre, on doit passer par Canaran et il y a à l'entrée du département, il y a des gangs partout qui contrôlent les routes. Donc, c'est difficile pour les gens de venir à Port-au-Prince et pour les gens qui sont à Port-au-Prince de se rendre en région.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le principal défi, le défi quotidien des Haïtiens, c'est quoi? C'est un mélange, il faut à la fois assurer sa sécurité, assurer sa santé, être sûr que l'on va trouver à manger?
C'est les trois, comme tu viens de dire, c'est les trois. C'est un défi pratiquement pour les Haïtiens. Par exemple, face à la situation d'insécurité, beaucoup de médecins ont dû quitter le pays pour se rendre à l'étranger. Il n'y avait pas assez de médecins pour les Haïtiens. Maintenant, il y a de moins en moins. Certains hôpitaux, déjà en manque de matériel, sont parfois débordés. L'hôpital universitaire d'État d'Haïti, qui est le plus grand centre hospitalier du pays, a dû fermer ses portes suite aux assauts des bandes armées parce qu'il se situe au cœur de Port-au-Prince. Donc, les malades ont été évacués de l'hôpital et il n'y a pas que cet hôpital, il n'y a pas que l'hôpital général, comme on l'appelle ici en Haïti, il y en a d'autres qui ont dû fermer leurs portes. Au milieu de tout ça, il y a l'insécurité alimentaire à Port-au-Prince, il faut le dire, et dans des régions d'Haïti aussi. Et les gens ne peuvent pas se nourrir, les prix des produits augmentent. Alors que le chômage s'installe de plus en plus, le secteur informel est frappé de plein fouet par l'insécurité grandissante avec le blocage des routes. Les commerces, on va dire de préférence, tournent au ralenti. Donc, ces commerçants qui sont pour la plupart des pères et des mères ont du mal à se nourrir et à nourrir leurs enfants.
Les aides humanitaires, elles arrivent toujours? Est-ce qu'il y a toujours des ONG sur place? Parce que j'imagine que pour ces organisations aussi, ça doit être extrêmement compliqué. Finalement, la situation, elle vaut pour tout le monde.
Tout à fait. La plupart des ONG travaillent dans des régions d'Haïti. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, se rendre en région, c'est compliqué car des gangs contrôlent presque toutes les entrées de ces régions. Il y a le programme alimentaire mondial, en tout cas PAM, qui intervient assez souvent dans la région, dans le département de la Grand'Anse, qui comprend la région de Jérémie. Mais c'est extrêmement difficile pour eux d'apporter assistance aux gens qui en ont besoin, à Jérémie par exemple et dans d'autres régions du pays.
Quand je t'ai appelé, Marie-André, pour te demander si tu voulais bien faire cet épisode, tu m'as dit oui, et puis tu m'as dit, moi je veux vraiment parler des déplacés parce que c'est important. Ces déplacés, qui sont-ils ?
Ils sont des résidents pour la plupart du quartier de Carrefour-Feuille, de Cité-Soleil parfois, mais ces derniers temps, il y en a plus qui viennent du quartier de Carrefour-Feuille. Ils ont quitté leur domicile pour fuir les assauts répétés des bandits armés. Ils se réfugient dans des écoles, des bureaux publics de la capitale haïtienne et ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Actuellement, il y a plus de 160 000 déplacés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Et parmi ces déplacés, il y a des femmes et des enfants qui n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau, aux soins de santé. Ces femmes qui, pour la plupart, ont été victimes de viols lors des assauts des bandits, ont besoin d'un soutien psychologique parce que ces femmes sont traumatisées. Les récits de ces femmes violées, battues sont glaçants. Alors, elles ont besoin de soins de santé, de soutien psychologique.
À côté de ça, on a entendu sur l'antenne de RFI ton reportage sur ceux qui habitent dans des quartiers dits sécurisés, si j'ai bien compris, et qui finalement, eux aussi, racontent qu'ils ne sont plus protégés contre les attaques des groupes armés. Ça veut dire que cette violence, elle touche tout le monde et elle s'étend de jour en jour ?
Oui, la violence armée s'étend de jour en jour dans des quartiers, on va dire, un peu plus, qui étaient dans le temps un peu plus sécurisés. Et là, je veux parler de Turgeot, Debussy, Paco, Canapé Vert. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Donc, ils commencent à quitter ces quartiers. Bon, certains sont partis à l'étranger, d'autres, on ne sait vraiment pas trop. Mais ils se sentent plus en sécurité depuis l'attaque de 2023, c'était en avril 2023, ils se sentent plus en sécurité. Et assez souvent, il y a des messages d'alerte autour de la possibilité d'attaquer ces quartiers. Donc, les gens qui résident dans ces quartiers ne se sentent plus en sécurité. Donc, ils ont dû quitter leur maison pour se rendre ailleurs ou à l'étranger, par exemple.
Je me souviens aussi, et on en avait parlé sur l'antenne de RFI, de ce hashtag « Je vais mourir bientôt » qui était une initiative qui avait été lancée en mars 2023. Il y a donc un an, ça avait été lancé par une journaliste qui voulait dénoncer toute cette insécurité dans la capitale. Et puis, on pouvait encore manifester à cette époque. Aujourd'hui, tout ça, ça n'est plus possible.
Comme tu viens de l'évoquer, je vais mourir bientôt, le hashtag de la consoeur Cindy Régis. C'était un cri de désespoir et de Cindy face à l'insécurité en Haïti, car des bandits armés gagnaient du terrain de plus en plus sous le regard passif des autorités. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ils gagnent en puissance, ces bandits. La situation ne s'est pas améliorée depuis. Ils continuent de tuer, incendier, enlever des gens et attaquer des sites stratégiques comme des bâtiments de police, l'aéroport international Toussaint Louverture. Donc, sur les réseaux sociaux, les gens continuent d'exprimer leur ras-le-bol, mais ils ne peuvent plus le faire dans les rues ces derniers temps. Car le gouvernement, face au récent assaut des bandits, a décrété l'état d'urgence sur Port-au-Prince, sur le département de l'Ouest, en réalité, qui comprend Port-au-Prince, et instauré un couvre-feu. Donc, les manifestations sont interdites pendant un mois. Mais au milieu de ça, il faut dire qu'il y a aussi Alexandra des bars et des restaurants qui fonctionnent avec peu de clients, mais ils fonctionnent quand même.
Justement, une espèce de vie qui, malgré tout, prend le dessus. C'est vrai que moi, j'ai toujours entendu, et aussi parce que j'évoquais en introduction les tremblements de terre, les tempêtes auxquelles fait face régulièrement le pays, que les Haïtiens étaient très résilients. Ça veut dire que l'espoir que la situation, elle évolue positivement et vite, cet espoir, il est encore là dans la bouche des Haïtiens.
En tout cas, dans mon quartier, j'ai vu qu'il y a des gens qui se réunissent presque chaque week-end pour manger ensemble, écouter de la musique quand même. Il y a des bars. très peu de clients viennent ces derniers temps, mais ils fonctionnent. C'est comme quand tu vois ça et à Port-au-Prince, c'est comme une lueur d'espoir. Tu dis peut-être un jour ça va changer. Donc oui, il y a des gens au milieu de tout ça, au milieu de cette désolation, de la terreur, il y a des gens qui résistent et c'est bien, c'est bon à voir.
À l'international, Marie-André, on voit bien que la force multinationale, elle tarde, elle, à se mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose, cette force qui est attendue par les Haïtiens, ou bien il y a quand même un sentiment d'abandon de la part des populations?
Je pense qu'il y a des gens qui attendent la force multinationale, qui est censée être dirigée par le Kenya, en tout cas. Il n'y a pas de résilience du côté des Haïtiens. Ils sont angoissés de vivre dans la terreur, dans la désolation, dans cette peur, dans cette inquiétude. Mais il y en a qui ne veulent pas, parce que pour eux, ce sera une solution à courte durée. Et ils ont aussi les mauvais souvenirs des forces étrangères, par exemple, les casques bleus, quand ils pensent à l'épidémie du choléra.
Une épidémie de choléra importée par des casques bleus népalais s'était déclarée après le séisme de 2010, alors que le pays ne connaissait pas de cas de cette maladie.
Donc, ce sont des mauvais souvenirs qui empêchent ces Haïtiens, on va dire, d'accepter le déploiement d'une force étrangère dans le pays.
Tout à l'heure, tu m'as dit que raconter ce qui se passe, ça peut être prendre un risque pour sa vie. Est-ce que c'est plus compliqué aussi quand on est, comme toi, journaliste?
Ces derniers temps, c'est beaucoup de précautions. En tant que journaliste, mes déplacements sont très limités. Je ne peux pas me rendre dans certaines zones, par exemple, pour travailler. Alors qu'auparavant, je pouvais le faire. Je pouvais aller voir mes parents aussi au nord de la capitale, ça il faut bien le dire, mais aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Je ne peux même pas aller dans le quartier où j'ai grandi. C'est un quartier contrôlé par des gangs armés aujourd'hui. C'est de même pour les autres journalistes qui exercent leur métier sur le terrain. On ne peut pas parler de notre métier. On se sent menacé. Mais informé, ça... On va dire que ça reste une priorité. Le journaliste, au milieu de ce carreau, dans ce carreau, on doit éclairer la population. Donc, ça reste une priorité d'informer la population sur ce qui se passe dans le pays. J'aime ce métier, j'aime le faire. J'aime faire entendre les gens, les aider à porter leur message. Donc, je le fais avec plaisir. Voilà.
Informer à l'intérieur du pays, c'est ce que tu fais, et à l'extérieur aussi, puisque on t'entend et quasi tous les jours en ce moment sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup Marie-André d'avoir accepté de venir dans Témoins d'actu.
Merci à toi Alexandra.
Et si vous voulez suivre l'évolution de la situation en Haïti, n'hésitez pas à vous rendre sur l'appli Pure Radio de RFI. Et notamment sur le podcast de réécoute Journal d'Haïti et des Amériques. À très vite.